La fête de la radio. Pour célébrer les 40 ans de la FM et les 100 ans de la radio.
Un débat présenté et animé par les lycéens de l'Académie de Toulouse avec l'aide de l'École de journalisme de Toulouse, l'École supérieure de journalisme de Montpellier et des écoles Supformadia et Studio M avec le soutien du CLEMI et du CSA.
Merci à vous pour votre attente et pour la petite pause. On va reprendre tout de suite sur un débat sur les podcasts, la web radio, la radio filmée, les nouveaux modes d'écoute de la radio avec nos deux intervenants ici présents, Frédéric Courtine et Benoît Hillinger, c'est bien ça. Mais on va vous laisser vous présenter plus en détail et on va surtout laisser la parole aux étudiants et aux lycéens.
Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Emma Fraresso et je suis en classe de terminale et je suis élue au CAVL, au conseil académique.
Donc bonjour, je m'appelle Natacha Wolf, je suis au lycée Pierre Mendès France à Vic-en-Bigorre et je suis également élue au CAVL.
Donc nous allons commencer par vous demander si vous pouvez rapidement vous présenter et également indiquer comment votre structure est-elle active sur ces nouveaux modes d'écoute de la radio en quelques mots.
Merci, bonjour à tous. Bonjour, merci pour cette invitation. Je suis Benoît Hillinger, secrétaire général de l'ACODIO. L'ACODIO, c'est une structure. Le mot est plus du tout à la mode, hein, vous allez avoir peur quand je vais le dire, mais c'est un cluster économique. Alors le mot cluster maintenant est un peu dévoyé, mais il y a quelques années, vous m'auriez demandé, mais qu'est-ce qu'un cluster ? Maintenant, tout de suite, on voit l'idée du cluster, c'est on se mélange, on échange, on partage très vite. Eh ben, c'est l'idée qu'on a fait qu'Audio, c'est sur l'audio, la radio et la voix, c'est créer ce mélange. Maintenant, depuis un an et demi, deux ans, on s'est créé, on a rassemblé 200 membres des radios de différentes catégories, des gens qui font du podcast, des gens qui... des voice business comme Media Meeting. On a Lara qui est membre et qui est aussi là aujourd'hui. Voilà, on est très très large et on essaye qu'entre tous ces membres-là, il y a de la collaboration, du partage, et qu'on puisse ensemble s'améliorer et inventer un petit peu l'audio de demain.
Bonjour, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Frédéric Courtine et je suis dans le monde de la radio en fait depuis juin 1981. Mai 81, c'est l'élection de François Mitterrand. Parmi ces promesses, il y a la libération des ondes. Ben, moi, je fais partie des quelques milliers de personnes en France qui ont sauté là-dessus, qui sont partis en Italie acheter un petit émetteur et on a démarré donc une petite radio libre, associative à Bordeaux, c'était. Et notre objectif à l'origine, c'était juste de pouvoir écouter la musique qu'on avait envie d'écouter quand on avait 18 ans, puisque on s'en souvient forcément pas, mais à cette époque-là, dans le sud-ouest par exemple, on ne recevait que France Inter, Radio Monte Carlo et Sud Radio. Et la musique que ces radios diffusaient correspondait absolument pas à nos goûts de l'époque. Et voilà, donc je suis rentré dans le monde de la radio en 81, il y a 40 ans, et j'ai fait toute ma carrière dans ce média. En 2004, j'ai créé avec deux associés une société qui s'appelle Media Meeting et qui, à l'origine, l'objectif était de proposer tout ce qui concerne l'audio, les formats audio, pour la communication interne des entreprises. Donc moi, je travaillais toujours dans la radio. À l'époque, j'étais directeur général de Sud Radio. Et je me suis associé donc avec une jeune femme qui, elle, travaillait chez France Télécom. C'était avant la privatisation d'Orange. Et avec mon directeur technique aussi. Et donc, à tous les trois, on a monté cette structure en 2004. Et actuellement, on a 200 collaborateurs, donc le siège est toujours à Toulouse. Et on a deux secteurs d'activité très différents. Le premier secteur d'activité, c'est ce qu'on appelle le pôle broadcast, que je dirige. Donc on a quatre stations de catégorie B, donc des stations FM traditionnelles. Une sur le bassin d'Arcachon, une à Bordeaux, une à Agen et une à Toulouse. À Toulouse, on a Toulouse FM. On a dans ce pôle broadcast également une agence de presse audio qui s'appelle A2PRL, qui est l'ancienne AFP Audio. Et c'est une agence de presse, il y a une trentaine de journalistes à Toulouse ici. Et on produit des flashs et des journaux radio pour 180 à 200 stations de radio en France. Et on a également dans ce pôle broadcast une régie publicitaire pour nos propres stations de radio, pour la publicité locale et la publicité régionale. Donc ça, c'est le pôle broadcast des radios classiques, une agence de presse audio, et c'est à peu près 70 personnes. Et à côté de ça, on a 130 collaborateurs sur ce qu'on appelle le pôle business, et on fait des programmes audio pour la com interne et la com externe des entreprises. On a énormément d'entreprises chez nous qui utilisent désormais l'audio dans leur arsenal de communication. Donc ils utilisent bien évidemment l'écrit, le print, les mails, etc. Un peu de vidéo également. Mais nous, notre idée en 2004, c'était d'ajouter l'audio à cet arsenal de communication. Et vous le voyez, dans notre entreprise, en fait, il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent dans ce secteur-là que dans la radio traditionnelle. Alors, comment on est actif sur ces nouveaux modes ? Alors, pour les radios traditionnelles, on diffuse en FM, bien évidemment. On diffuse également en DAB+, puisque les régions Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon et Aquitaine-Nouvelle-Aquitaine ont bénéficié du plan DAB+, qui a déjà démarré en novembre dernier. Donc, nos stations sont diffusées en DAB+. Bien évidemment, nos stations sont diffusées en streaming, en IP. On peut les écouter sur toutes les plateformes comme TuneIn ou plus récemment comme Radio Player, la plateforme française d'écoute en streaming, en IP. Bien évidemment, on produit des podcasts qui sont soit des émissions ou des bouts d'émissions qu'on a déjà diffusées en radio, qu'on peut écouter en audio on demand sur nos sites internet, soit des programmes originaux mais qui sont faits par nos collaborateurs. Voilà à peu près ce que l'on peut dire sur les nouveaux modes d'écoute de la radio.
Eh bien, merci beaucoup. Donc, du coup, dans quelle mesure le podcast ou la radio filmée est-il justement de la radio ? Donc, quelle est la différence avec le direct ? L'écriture radio est-elle différente lorsqu'on réalise une production uniquement destinée à une diffusion en podcast ?
Oui. La radio filmée, d'abord, je vais évacuer ça assez vite. Pour moi, c'est totalement anecdotique. Je vois pas l'intérêt. On fait de la télévision ou on fait de la radio. Pour moi, la radio filmée, je sais pas à quoi ça correspond. Surtout à notre époque où, quand on filme des studios, on a des gens derrière des consoles de mixage qui sont en train de manipuler des ordinateurs. Vous voyez, Donc
je vous rends la parole après. Effectivement, je crois que c'est parce que à un moment donné, il y a eu des écrans et on s'est dit comme les gens utilisent des devices qui ont des écrans, il faut mettre quelque chose. Mais en fait, il n'y a pas de valeur ajoutée si ce n'est une présence visuelle, mais sans aucun intérêt. Je vous rejoins.
En revanche, on utilise la vidéo, c'est-à-dire que dans nos radios, on produit beaucoup de petits éléments vidéo qu'on diffuse sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, etc. Mais l'objectif, c'est de ramener les utilisateurs de ces réseaux sociaux en fait, vers l'écoute de la station. Donc on ne fait pas de la radio filmée en direct. Par contre, on utilise la vidéo et le canal vidéo. Après, pour le podcast, moi, ça m'amuse un peu en raison de mon expérience un peu passée. Parce que les podcasts est devenu très à la mode il y a quelques années, parce que le mot a été vulgarisé tout simplement, puisque c'est la contraction d'iPod et de broadcast. iPod, je pense que la plupart des gens savent plus ce que c'est, mais ça, en fait, moi quand j'étais jeune, par exemple, j'aimais beaucoup les émissions du soir de France Inter parce que c'était des émissions avec de la musique rock. Quand je ne pouvais pas les écouter, je les enregistrais sur une cassette. Alors, vous ne savez pas non plus ce que c'est une cassette. Je vous en ai porté une, vous voyez. Et en fait, en faisant ça, j'écoutais déjà des podcasts. En fait, un podcast, c'est un fichier audio qu'on peut écouter quand on le souhaite et maintenant sur les devices, sur les appareils que l'on souhaite. L'intérêt du podcast, c'est que ça amène certainement des nouvelles populations à écouter de l'audio. Et j'espère que ça permettra à ces nouvelles populations et ces catégories plutôt jeunes de retourner vers la radio en direct, etc. Voilà. Après, je crois qu'il y avait une question sur l'écriture, etc. Bien sûr que le podcast, est intéressant parce qu'il n'y a pas de notion de timing, par exemple, de format, etc. Et que si vous faites vous-même un podcast sur un sujet que vous aimez beaucoup, ben vous n'allez pas être obligé de faire un certain timing parce que ça va rentrer dans une émission de radio, etc. Donc si vous avez un sujet qui nécessite 10 minutes, ben vous ferez 10 minutes. S'il nécessite 14 minutes, vous en ferez 14 minutes, etc. Donc il y a une forme de liberté autour du podcast qui est assez intéressante. Et d'ailleurs, le foisonnement de ces nouvelles productions, donc de gens qui se mettent à l'audio par le podcast, est très intéressant. Et moi, me rappelle un petit peu ce que j'ai vécu en mai et juin 81, parce qu'effectivement, c'est un nouvel espace de liberté. En cela, c'est très intéressant. Après, quand on regarde les études de médiamétrie, par exemple, sur les habitudes de consommation, on est quand même obligé de constater que 80-85% des podcasts qui sont écoutés sont tout simplement de la radio en replay, en fait. C'est-à-dire, vous avez raté la revue de presse de Nicolas Canteloup le matin, vous l'écoutez l'après-midi parce que c'est plus facile pour vous. Les podcasts natifs, donc qui ne sont pas faits à l'origine pour être diffusés en radio, ça représente que 10 à 15% de la consommation. Mais il n'empêche que c'est un phénomène très, très intéressant.
Tout à fait, je te rejoins. Je ne savais pas d'ailleurs que j'ai changé des cassettes de Bernard Lenoir avec mes amis quand j'étais jeune. Je ne savais pas que c'était du podcast déjà, mais c'est vrai que maintenant que t'en parles, c'est évident. Donc, il y a aussi ce phénomène, c'est qu'à l'époque où on enregistrait comme ça, ou même en MP3 et qu'on le partageait, il y avait une moindre capacité à mesurer cette consommation, et le mot n'étant pas à la mode et dévoyé, effectivement, on voyait moins le phénomène, mais il existait toujours, il existait déjà et il existe toujours. Je crois que le podcast, toutes les radios ont commencé à en faire il y a, au fur et à mesure, il y a peut-être les premières il y a 20 ans, vous parlez de Media Meeting qui a maintenant presque 20 ans, c'est ça, c'était, et ça a permis effectivement au début juste de permettre de rediffuser la radio, presque la délinéariser puisqu'on écoute ce qu'on veut au moment qu'on veut, et puis au fur et à mesure ça a permis plus de liberté. Je discutais avec des radios qui sont chez Codio, elles me disaient bah, ça permet sur un certain sujet d'en faire un traitement un peu différent, un peu plus long. Par exemple sur le sport, il disait que pour son audience habituelle il faut traiter le sujet de manière courte, mais pour les passionnés, mettre la totalité de l'interview de l'entraîneur, ça peut être intéressant, pas pour tout le monde. Donc c'est une manière de proposer un complément, un supplément qui va plutôt renforcer l'audience de la radio que finalement la concurrencer.
Très bien, dans 5 minutes on passera à la question des lycéens et des étudiants, mais les lycéens ont encore une question pour vous.
Oui, alors nous aimerions savoir ce que vous pensez que les pratiques d'écoute que permet Internet, donc le podcast, la web radio, etc., vont-elles tuer ou sauver la radio traditionnelle ?
Alors, là-dessus, la radio traditionnelle, c'est un peu compliqué de se dire qu'est-ce que la radio traditionnelle, parce que finalement, comme on vient de le dire, ça fait déjà plusieurs décennies que le live streaming est arrivé, que le podcast est disponible, donc la radio traditionnelle est une perpétuelle évolution. Si on entend la radio FM faite avec des sons d'avant et une manière d'avant, bah oui, elle est déjà morte parce qu'elle évolue en continu, et aujourd'hui on a une manière différente de faire la radio. En ce moment, avec cette fête de la radio, d'ailleurs, c'est l'occasion d'écouter des vieilles émissions, et on voit même la vitesse de parole, le ton qui est employé. La radio traditionnelle est morte, mais vive la radio, et vive la radio qui évolue et qui a saisi toutes les opportunités, que ce soit pour la produire, toute la technologie qu'on parle permet de produire la radio de manière différente, de manière plus légère. On a des studios virtuels, on a une capacité vraiment d'agir beaucoup plus rapide et beaucoup plus professionnelle. Et derrière aussi, pour l'auditeur, et bah c'est une manière de pouvoir l'écouter dans sa voiture d'une certaine manière, sur son téléphone, en replay. Donc je pense que c'est vraiment plus source d'opportunités que l'inverse.
Ouais, c'est vrai que les verbes tuer ou sauver sont peut-être un peu exagérés. Il y a 2 jours, j'étais à Paris, au CSA, pour fêter les 100 ans de la radio, puisque cette manifestation et consacré donc à cet anniversaire, 100 ans de radio et 40 ans de radio libre. Donc 100 ans de radio, ça veut dire que dans les années 20, les premiers postes émetteurs de radio ont démarré, et notamment à Paris, il y avait un poste émetteur qui s'appelait Radiola. Et le principal animateur de cette radio, donc c'était en 1922, s'appelait Radiolo. Et Radiolo, il avait pris une habitude, c'est qu'il prenait les journaux de la presse écrite parisienne, et au micro, il racontait en fait ce qu'il lisait, il donnait... En fait, c'était l'ancêtre des journaux radio, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de flash info, etc. Et quand il a fait ça en 1922, tous les patrons de presse écrite se sont scandalisés en disant « Mais vous ne vous rendez pas compte, vous êtes en train de tuer la presse écrite va disparaître, il n'y aura plus de journaux à cause de la radio. » Et vous voyez que 100 ans après, il y a et toujours des radios et toujours des journaux. Je ne suis pas persuadé qu'une technologie tue... un média ou une façon d'écouter. En revanche, ces nouvelles technologies et toutes ces nouvelles façons d'écouter de l'audio ou de la radio, moi je pense que c'est bénéfique pour la radio parce que ça amène des publics différents et c'est très intéressant pour le renouvellement en fait de l'audience.
Très bien, on va passer à la question des lycéens. Youen.
Alors tout d'abord, bonjour. Actuellement, le smartphone est notre écran de prédilection à nous, lycéens, étudiants, jeunes. Et la plupart des contenus médias passent par cet outil, finalement. Alors, une question toute logique se pose. Comment la radio s'adapte-t-elle à cette évolution ?
Je fais une première petite réponse et je te laisse la parole. Comme on vient de le dire, la radio s'est toujours adaptée, s'adaptera toujours, et je crois que c'est des opportunités. Moi, pour ce que je vais pouvoir répondre, puisque chez Codio, on a aussi des gens qui produisent des outils pour la radio, c'est que les gens qui produisent des outils pour la radio essayent en continu de donner le moyen aux journalistes et aux radios de pouvoir produire avec ces nouveaux outils-là, pour être plus réactifs, et de pouvoir donner aux auditeurs la capacité d'écouter de manière plus adaptée à un mode de vie moderne dessus. On a parlé de Radio Player France qui travaille aussi sur ce sujet-là. Donc je pense qu'il y a vraiment un phénomène d'accompagnement de fond pour que tous les nouveaux, on voit aussi tout un travail sur les smart TV, de pouvoir écouter la radio plus facilement dessus. Donc je crois que là-dessus, il y a un travail des gens qui font la technologie pour le grand public et qui travaillent chez Codio avec des radios, donc de concert, afin qu'ensemble, on puisse proposer les choses les plus adaptées dès aujourd'hui et encore plus demain.
Oui, et le constat, pour moi, il est quand même assez intéressant. C'est que grâce à ça, tout le monde a un poste de radio dans sa poche, quoi, en puissance. Alors vous pouvez effectivement regarder aussi de la télé, lire des trucs, etc. Mais on peut aussi écouter de la radio. Alors je vais ressortir, moi, dans les années 80, vous voyez, on avait ça. Les petits baladeurs de chez Sony, par exemple, qui permettaient d'écouter la FM. Et ça, à l'époque, ça a été une révolution, parce que les postes de radio, c'était soit dans sa voiture, soit des gros postes qu'on avait chez soi. Mais grâce à ça, et vous voyez que l'analogie est quand même assez intéressante, grâce à ça, on a pu écouter la radio en mobilité, en faisant son jogging, en faisant ses courses, etc. Donc pour moi, le smartphone, c'est une vraie force pour la radio et pour les contenus. Après, sur la façon de s'adapter, ça nous permet, le fait d'avoir un écran, d'envoyer des données associées, par exemple, chose qu'on ne pouvait pas faire uniquement en FM, donc envoyer la pochette du titre qui passe, envoyer les coordonnées de l'invité, la pochette du livre de l'écrivain que vous êtes en train d'inviter. Ça permet également d'envoyer des petites vidéos. Nous, on tourne beaucoup de petites vidéos autour des émissions et des invités que l'on poste sur nos propres réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux des invités. Voilà, on essaye de s'adapter, mais globalement, quand on produit une station de radio, l'intérêt, c'est d'être diffusé le plus largement possible, que ce soit en FM, en DAB, en IP, en streaming, etc., sur toutes les plateformes et partout, pour que les gens puissent vous recevoir à peu près
à peu près partout. Je vais encore faire l'ancien combattant, mais dans les années 90, par exemple, à Bordeaux, on avait une radio qui était assez puissante et qui était très associée avec le club de foot des Girondins de Bordeaux, qui à l'époque était un grand club. Et cette radio, en fait, n'émettait que sur le département de la Gironde. Or, les supporters de ce club dépassaient le cadre de la Gironde. Donc, ils nous sollicitaient en disant « Mais nous, on aimerait bien écouter les interviews des joueurs, de l'entraîneur, etc. » Mais vous savez ce qu'on avait fait ? On avait mis notre radio sur un numéro téléphonique et les gens, il suffisait de composer un numéro téléphonique et ils tombaient sur une sorte de répondeur où ils avaient la radio en live. Voilà, c'était le streaming du pauvre de l'époque, mais ça marchait très bien. Et en fait, de pouvoir utiliser toute cette nouvelle technologie pour toucher son public partout où il est, n'importe où, et à n'importe quel moment, c'est juste fabuleux pour des producteurs de contenu et de radio.
Très bien, donc merci beaucoup pour vos réponses. Alors avant de passer aux questions du public, nous allons écouter la question des étudiants.
Bonjour, alors Soltan Ouazani. Ma question est la suivante. Comment expliquer le succès de la radio et de ces nouveaux modes d'écoute au sein des entreprises ? Et dans un second temps, comment parvenez-vous à évaluer le succès de ces podcasts ? Je fais référence aux mesures d'audience, au partage d'informations sur les plateformes, notamment.
Je crois que la réponse est vraiment ciblée pour toi.
Alors, d'abord parce que une des caractéristiques de la radio, c'est que toutes les études, tous les ans, le montrent, c'est un média qui est très crédible et qui est d'ailleurs considéré comme le plus crédible, devant, très loin devant la télévision, la presse, l'Internet, etc. Et ensuite, c'est un média qui est extrêmement puissant. Il y a quand même 8 personnes sur 10, tous les jours, en France, de plus de 13 ans, qui écoutent la radio. Donc c'est totalement entré dans les mœurs. Et en fait, l'habitude de ces gens-là qui écoutent la radio pour se divertir, pour s'informer, etc., en fait, c'est tout à fait logique que dans le cadre de leur entreprise, ils se disent ben, « utilisons aussi ce canal qui est l'audio et la radio d'entreprise ». Et c'est ce que l'on a fait donc, depuis 17 ans. Après, comment... Donc, on le voit, puisque nous, à notre échelle, notre entreprise se développe énormément. Donc de plus en plus d'entreprises intègrent l'audio et la radio. Donc l'audio sous forme de podcast, et les gens peuvent écouter, et la radio sous forme de web radio privée, etc. Et on fabrique beaucoup de programmes de web radio, notamment pour des communautés de salariés. Alors avec le télétravail, ça s'est encore plus développé, parce que les gens vont beaucoup moins sur leur lieu de travail. Donc on a beaucoup d'entreprises qui nous ont demandé des web radios avec de la musique et des informations sur les RH, sur les prises de congés, sur l'actualité de leurs entreprises. Et ça fonctionne très très bien. Et après, comment on le mesure ? Ben, on le mesure comme toutes les nouvelles technologies liées à l'IP. C'est l'avantage aussi de ces technologies, c'est qu'on peut mesurer le nombre de personnes qui écoutent, leur durée d'écoute, etc. Et ça, c'est un indicateur très intéressant. Et d'ailleurs, c'est quelque part ce qui a fait un peu le succès de Media Meeting, c'est que pour la première fois, les DIRCOM ou les DRH ont leur donné des informations sur combien de gens, par exemple, écoutaient leur flash info. Le premier client de Media Meeting en 2004, ça a été les laboratoires Pierre Fabre, qui sont pas très loin d'ici. Et bon, alors c'était facile aussi parce que moi j'étais DG de Sud Radio et Sud Radio appartenait à Pierre Fabre. Mais quand j'ai présenté à Pierre Fabre en fait ce qu'on voulait faire, qui était de la radio d'entreprise, mais à l'époque ça n'avait pas de sens. Nous on faisait beaucoup de pédagogie, on expliquait beaucoup. Ils nous ont dit ben, nous on a 3000 à l'époque visiteurs médicaux qui se baladent partout en France, on les réunit une fois par an à Toulouse. Et le reste du temps, ils sont chez eux et on leur envoie des quantités de documents, de magazines, etc., sans savoir s'ils les lisent ou pas, etc. Et donc, ben, on leur a fait un premier flash info. Tous les lundis matins, tous les salariés de l'entreprise avaient un flash de 5-6 minutes sur l'actualité en fait, de l'entreprise pour que tout le monde ait le même socle d'informations internes. Et cette... Ce flash-là, en fait, on pouvait toutes les semaines, on leur disait, ben voilà, il y a 1500 personnes qui ont écouté. Alors bien sûr, on ne descend pas au nom de la personne, mais on peut leur dire dans quelle région, etc. Et ils ont du retour. Voilà.
Si je peux compléter pour aller vraiment dans ton sens et même enfoncer le clou de Media Meeting, c'est le savoir-faire que tu avais et que d'autres avaient au sein de Media Meeting de la radio, qui est là pour séduire l'auditeur avec le bon rythme, la bonne manière d'apporter l'information. Vous l'avez apporté au sein de l'entreprise, où quelquefois, effectivement, les newsletters juridiques ou d'information peuvent être barbantes. Et là, il y avait ce savoir-faire de rendre la chose plus digeste, plus agréable, et cette capacité aussi d'écouter cette information en faisant son footing ou autre activité a pu vraiment renforcer. Et c'est un succès. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont maintenant viser ce type de créneau parce que ça devient plus naturel de se dire effectivement, il y a certains messages qui sont beaucoup plus intelligents à donner de manière orale. Par l'audio que écrit ou vidéo. Ça a plus de sens.
Mais on ne dit jamais aux entreprises, vous allez pouvoir arrêter tous vos journaux d'entreprise, toutes vos vidéos d'entreprise, tous vos mails, vos newsletters, etc. C'est juste complémentaire. Il y a des choses qui sont plus faciles à dire à l'oral, en audio, et des choses qui sont plus faciles à montrer en vidéo, plus faciles à expliquer à l'écrit, etc. Après, l'audio a une autre force aussi, c'est que, alors on le dit jamais parce que c'est un peu tabou, etc., mais de plus en plus de gens en France ont des problématiques de lecture avec le français écrit. Et donc, ce problème-là, vous ne l'avez pas à l'audio. Voilà.
Très bien, merci pour vos réponses. On va consacrer les dernières minutes de ce débat à un échange avec la salle. Vous commencez à en avoir l'habitude pour ceux qui sont là depuis ce matin. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas.
Bonjour, Xavier Mouton du Bosc de Radio FMR. J'ai bricolé avec le format podcast en 2004, justement, en tant que rattrapage de radio. Mais on est allé bien au-delà, parce que tout d'un coup, nous, on était une petite radio associative, et on s'est rendu compte qu'on avait un auditoire largement au-delà. On avait une centaine de personnes qui nous écoutaient à Los Angeles, en Chine, tout simplement parce qu'on proposait un regard qui était différent, justement, sur la culture et tout ça, qu'on leur proposait. Maintenant, je fais un tout autre type d'émission. Et pour moi, le podcast est vraiment complémentaire de la radio, dans le sens non pas forcément du replay, mais que la radio, c'est une radio de rendez-vous. C'est une radio qui est calée dans le temps. Or, en podcast, on peut aller au-delà. On peut proposer une version longue, réellement, de l'interview. Mais on peut donner aussi énormément de liens contextuels, voire même du lien temporel, de proposer un lien à tel moment dans une émission. Et ça, c'est quelque chose qui est une immense richesse sur le podcast, qu'on oublie aussi un peu, c'est qu'on peut panacher les émissions de différentes sources. Et ça, c'est en train de disparaître. Avec des radios comme radio, avec des players pardon, comme Radio Player, etc., ou Radio France qui commence à supprimer les émissions au bout de 15 jours ou d'un mois, on est en train de perdre cette possibilité d'écouter librement avec n'importe quel player, avec n'importe quel poste, finalement. Et ça, je trouve ça dommage. Donc pour moi, je dirais que podcast et radio, c'est pas le podcast n'est pas forcément un replay de la radio, mais c'est vraiment une extension qu'il faut voir, qu'on ne le travaille pas encore suffisamment bien, qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut rajouter là-dessus pour le service de nos auditeurs et pour ceux qu'on n'imaginerait pas qu'ils écouteraient nos émissions.
Merci beaucoup. D'autres réactions peut-être dans le public ? D'autres questions ? Vous souhaitez peut-être répondre, messieurs ? Oui, j'arrive.
Oui, juste aussi pour apporter une autre précision, c'est que le podcast permet d'élargir, comme on dit tout à l'heure, ses auditeurs. C'est-à-dire qu'une région, une radio qui a une diffusion en bande FM a une zone très limitée pour des petites radios locales comme la mienne. Et donc, ça permet à des gens d'avoir accès à l'information en dehors totalement de notre zone, comme on disait tout à l'heure, avec les Girondins de Bordeaux. C'est-à-dire que nous, on a des émissions, par exemple, économiques, des flashs économiques, et qui sont écoutées par les amis des amis des amis. Ça fait un petit peu tache d'huile ou boule de neige, peu importe. Et ce qui fait qu'on a aussi des auditeurs en Nouvelle-Zélande, et parce que eux, qui sont des expatriés, entendent parler de leur région, entendent parler de l'actualité locale, de leur lieu de naissance ou autre, à l'étranger, dans leur langue. Et ça, c'est pas possible avec la radio traditionnelle.
Ben, comme quoi, vous voyez, les technologies sont très complémentaires et moi, je ressens plutôt ça comme de belles opportunités. Voilà. Après, le sujet, c'est juste de faire des choses qui intéressent d'autres personnes. Voilà. Donc, je pense qu'il faut plus s'intéresser au contenu, à ce que l'on fabrique, plutôt qu'à la façon dont ça sera diffusé. Voilà. et les nouveaux modes de consommation et les nouveaux modes de diffusion, ce sont des opportunités pour tout un chacun. Voilà.
Est-ce qu'il vous reste d'autres remarques, d'autres questions dans le public, chers lycéens, lycéennes peut-être? On s'arrête là? Une fois, deux fois, trois fois? Allez, très bien. Merci à vous, messieurs.
Merci
beaucoup.
La fête de la radio. Pour célébrer les 40 ans de la FM et les 100 ans de la radio.
Un débat présenté et animé par les lycéens de l'Académie de Toulouse avec l'aide de l'École de journalisme de Toulouse, l'École supérieure de journalisme de Montpellier et des écoles Supformadia et Studio M avec le soutien du CLEMI et du CSA.